Bienvenue pour Allo Tibé,
présenté par Myriam Piccinali.
Avec la complicité de Ludovic Tirol de 48 FM, votre radio en Lozère, à Mende. Nous partons ensemble pour le Tibet, à travers des lectures de textes sacrés et profanes appartenant à la littérature tibétaine ancienne et ses sources indiennes que l'on peut qualifier de littérature d'éveil. À nos chères auditrices et auditeurs pour ce numéro 11 de Allo Tibet sur 48 FM avec tous mes remerciements à Ludovic Tirol pour sa fidélité à cette émission. Et aujourd'hui, merci à Thomas. Nous poursuivons notre programme de découverte de la culture indo-tibétaine ancienne, ce qui équivaut à peu près de parler du 8e siècle de notre ère jusqu'à à peu près à la fin du 19e. Et de temps à autre, on pourra aussi évoquer les cultures voisines, donc la Mongolie et la Chine. Nous reprenons les contes facétieux du cadavre, en terminant d'abord le chapitre 6 de notre lecture, l'histoire du paysan et du roi cruel. Alors, je résume juste le début pour ceux qui n'avaient pas entendu la précédente émission. Donc, par suite de mauvaises récoltes, un paysan est réduit à la famine et ne peut payer l'impôt. Le roi le bannit du royaume. C'était une époque bénie où le roi pouvait dire à son sujet « Tu t'en vas, s'il te plaît », voilà, en le regardant droit dans les yeux. Au cours de son errance, il trouve un objet magique, un bol, qui se remplit à sa demande de nourriture. Il rencontre trois autres compères, pauvres aussi comme lui, errants de même, et disposant de pouvoirs magiques. Alors, l'un a un fouet tueur, l'autre un marteau de fer qui fait surgir une forteresse inexpugnable, et un autre, une peau de chèvre qui produit le déluge. Voilà, ils forment une troupe solidaire. Les quatre hommes, étant des frères jurés, partageaient les joies et les peines. Cela renforça leur courage. Et ils discutèrent de la manière dont ils pourraient se venger du roi cruel. Ainsi que le pauvre paysan l'avait proposé, ils se glissèrent derrière le palais royal et à minuit, ils se mirent à frapper le sol avec le marteau de fer. À chaque coup, un étage de la forteresse de fer apparaissait. C'est ainsi qu'ayant frappé à 9 reprises, une forteresse de fer à 9 étages apparut. Le lendemain, au lever du soleil, un ministre du roi se rendit à la porte. Il vit avec surprise que derrière le palais se dressait une forteresse de fer à 9 étages qu'il n'avait jamais vue auparavant. Il se dirigea vers la porte de la forteresse et observa attentivement. Il reconnut le pauvre paysan d'autrefois et se précipita pour le dire à son roi. Celui-ci, fort irrité, dit « L'adage, quand le serviteur est rassasié, il rivalise avec son seigneur, est donc bien vrai. » Et il ordonna que ses troupes brûlent l'édifice sans délai. Les soldats transportèrent une grande quantité de charbon, en recouvrirent le bâtiment et allumèrent le feu. Puis, à l'aide d'un énorme soufflet, ils l'activèrent. Le paysan pauvre, depuis le sommet de la forteresse, secoua la peau de chèvre. Les flammes s'apaisèrent. Le roi, voyant cela, fut empli de terreur et il ordonna de détruire la forteresse au moyen de marteaux de fer et de tenailles. Les soldats prirent des marteaux de fer et des tenailles et ils entreprirent de détruire la forteresse. Alors le paysan pauvre secoua avec énergie la peau de chèvre et le déluge s'abattit. Tous les soldats furent emportés par les eaux. Le roi, terrifié, se dit qu'il fallait à tout prix supprimer cet homme. En même temps que ses ministres, il coiffa un homme, prit son arc et son carquois, encercla avec les siens la forteresse de fer et décocha ses flèches en direction du paysan. À ce moment-là, ce dernier envoya le fouet. Celui-ci s'enroula successivement autour de la taille du roi et de chacun de ses courtisans et les tua. À ce point de l'histoire, Deschezampo laissa échapper. Il est bien que le pauvre paysan se soit vengé. Le cadavre, Nyoduchen, s'envola vers le charnier Silwatsel dans un bruit de battement d'ailes. Et nous abordons le chapitre 7 des contes facétieux du cadavre. Gratitude, c'est le titre, gratitude. Deschezampo, à la fin de l'histoire précédente, avait laissé échapper une parole. Aussi, le cadavre Nyoduchen s'en retourna-t-il, encore une fois, au cimetière Silwatsel, en volant. Mais Deschezampo, sans redouter la fatigue, se remit lui aussi en route et s'en retourna, le cadavre sur le dos. Il se jura de ne pas prononcer un seul mot. Et c'est ainsi, alors qu'il marchait portant sa charge, que le cadavre Nyoduchen raconta une autre histoire. Autrefois, un paysan soumis à l'impôt vivait dans une région des confins. Il s'appelait Dramsekyeu, fils de Brahman, et était soumis à la juridiction d'un maître dont l'esprit mauvais était aussi impétueux que le feu qui brûle. L'impôt agricole affluait sans interruption, tel un cours d'eau. Les paysans n'avaient pour seul compagnon de route que leur ombre et ne laissaient en héritage derrière eux que l'empreinte de leurs pas. Le montant des impôts requis de Dramsekyeu étant par trop lourd, la seule solution qu'il trouva fut de laisser ses pas le mener vers d'autres régions. En chemin, il céda pour peu de choses tout ce qu'il avait de valeur, troquant ses biens contre un âne et deux morceaux d'étoffe de laine, puis il se mit en quête de nourriture. Il n'avait d'autre choix que de mener son âne, de grimper des cols et de dévaler des pentes pour s'éloigner toujours plus de sa terre natale, même si c'était celle de sa bienveillante mère et de son père, qu'il ne pouvait abandonner sans regret. Un jour, sur la route, il vit que des enfants avaient attrapé une souris, lui avaient attaché une ficelle au cou, la traînée et la jetée à l'eau. Il entendit également les enfants dire qu'ils allaient la dépecer vivante. Voyant que l'animal, effrayé et terrorisé, tremblait de tout son corps, le paysan se souvint de la manière dont son seigneur l'avait fait souffrir. Attristé, il éprouva aussi une immense compassion et dit « Les enfants, pourquoi maltraitez-vous ainsi cette souris ?» Ceux-ci répondirent sans l'écouter. « Nous l'avons attrapée parce qu'il nous la fallait. » Le paysan répliqua « Permettez-vous que je vous l'échange contre ce morceau d'étoffe de laine ?» Les enfants furent ravis. Ils procédèrent à l'échange et relâchèrent la souris. Il poursuivit sa route et à un croisement, vit des enfants en compagnie d'un petit singe qu'ils avaient attrapé et qu'ils forçaient à jouer avec eux. Or, celui-ci ignorait comment s'y prendre et les enfants lui assénaient des coups de lanière de cuir et l'invectivaient. Cela aussi rappela au paysan ses souffrances passées. Le Seigneur aussi nous frappait avec un fouet. Il fut pris de pitié. Il leur donna à eux aussi un morceau d'étoffe de laine qu'ils prirent en échange du singe. Celui-ci fut renvoyé dans la forêt. Le paysan se remit en route. À un carrefour, il vit des chasseurs qui, ayant attrapé un ourson, le frappaient à coups de bâton pour le dompter et lui apprendre à jouer. Encore une fois, ce spectacle lui rappela ses misères passées et il dit « Permettez-vous que j'échange mon âne que voici contre votre ourson ?» Les chasseurs ravis procédèrent immédiatement à l'échange. Il leur remit son âne et mena l'ourson vers la forêt où il le relâcha. C'est ainsi qu'il devint un mendiant qui n'avait plus pour compagnon de route que son ombre ronde et noire et pour compagnon de couche que ses genoux gris et ronds. Ce soir-là, dans l'idée de mendier de la nourriture, il se présenta à la porte d'une famille de chefs locaux. Au même moment, le trésorier du chef, qui avait dérobé un ballot de soie fine et fuyé vers la porte, tomba sur la maîtresse de maison. Il jeta alors au prix du journalier ce ballot. Comme le dit l'expression, il fit porter un chapeau noir à un homme blanc, car il vociféra « Cet homme a chapardé dans le palais !» Des hommes se rassemblèrent et s'emparèrent du paysan qu'ils présentèrent au roi. Celui-ci leur déclara « Cet homme s'est comporté de manière honteuse. Enveloppez-le dans une pièce de cuir et jetez-le à l'eau. » C'est ainsi que le paysan fut jeté dans les flots. Alors que les eaux l'emportaient au loin, l'enveloppe de cuir s'accrocha à un arbre qui se trouvait sur la rive et arrêta sa course. Il pensa alors que s'il ne mourait pas de noyade, il mourrait de faim ou d'asphyxie. Il se désespérait quand une souris, venue en quête de nourriture sur les bords de la rivière, perça un trou dans l'enveloppe de cuir. Par chance, le trou se trouvait juste à hauteur de son œil. Il regarda et vit que c'était une souris, qui elle-même le reconnut aussitôt, comme l'homme qui avait été si bienveillant envers elle. Elle chemina au bord de l'eau, puis partit à la recherche du singe et de l'ourson, tout en lançant des « couic, couic ». Or, il s'avéra que ces trois êtres, liés par l'amitié née de leur souffrance commune, cherchaient partout l'homme bienveillant qui leur avait sauvé la vie, afin de lui rendre la pareille. À eux trois, ils déchirèrent l'enveloppe de cuir, en extirpèrent l'homme bienveillant et le déposèrent sur l'herbe. Puis, tous trois se mirent en quête de nourriture, fruits et autres. Lui en donnèrent et restèrent là. Le soir, l'ours vit une grande lumière au milieu de la plaine sur une montagne au loin. Le singe alla voir. Il trouva un joyau qui exauce les désirs de la taille d'un œuf et le donna au paysan. Enchanté, celui-ci adressa au joyau une prière. Aussitôt surgirent dans cette plaine une forteresse à plusieurs étages et une écurie. Dans l'enceinte, un établissement où l'on chante et où l'on danse. Aux alentours, toutes sortes d'arbres fruitiers et de végétation. Une maison toute remplie de richesses. Les quatre amis furent rassérénés et heureux. Alors cette histoire de drame sécueux, elle est assez émouvante. Hein. Je pense que tout lecteur est sensible à ce bon cœur et à cette compassion. On pourrait dire que c'est un texte qui appartient à notre culture. Hein. C'est vraiment très très proche. Hein. Comme chez nous, je dirais, en Europe, on voit que l'injustice sociale et l'inégalité des temps féodaux au Tibet ont marqué les sensibilités. Ces injustices engendrent des malheurs, de la misère, des tragédies. Mais finalement, la pureté des pauvres victimes les sauve. Et leur concilie aussi les forces de la nature. En l'espèce ici, des petits animaux, là des objets magiques obtenus par des forces inconnues, on ne peut s'empêcher de se souvenir de la proximité de nos contes, des contes en général, avec des cultures qui les ont précédées ou ont créé le contexte, qu'on appelle souvent culture chamanique, ou la nature qu'on dit sauvage, est pleine de sens et d'êtres non humains. Et aussi, on peut se souvenir que, par exemple, dans nos contes médiévaux dits de chevalerie, c'est au milieu des forêts, donc qui sont définies dès lors comme, on pourrait dire, des terres de réalisation, que le chevalier va inventer des modes nouveaux de courage. Donc tout ça donne beaucoup de sens à ces contes. Et nous reprenons la lecture des vies illustres des sages yogis de l'Inde, l'histoire de Goraksha. Devapala, qui régnait dans l'est de l'Inde, avait un fils. Quand celui-ci eut 12 ans, la reine, sa mère, tomba gravement malade. Sentant sa mort toute proche, elle appela son fils pour lui dire ses dernières volontés. Le bonheur et la souffrance des êtres animés, dit-elle, dépendent entièrement de leurs actes vertueux et nuisibles. Ne que commets donc jamais le mal, mon fils, même au risque de ta vie. Ce qu'ayant dit, elle rendit l'âme. Le peuple alors supplia le roi de reprendre femme dans un autre pays. Le roi obtempéra, mais au bout de quelques jours, il se retira dans la forêt pour dissiper sa peine. Sur ces entrefaites, la nouvelle reine aperçut le prince du haut du palais et elle s'éprit de lui. Elle lui envoya un messager chargé de l'inviter à la rejoindre, mais le prince refusa. Humiliée, elle pensa que le jeune homme la méprisait et, bientôt convaincue de n'avoir pire ennemi que lui, elle se jura que tous les moyens seraient bons pour le supprimer. Elle pria ceux qui l'entouraient d'aller tuer le prince. Mais chacun répondit que c'était impossible, car le prince était pour le roi le trésor le plus précieux. Elle imagina alors un subterfuge. Elle se lacéra tout le corps jusqu'au sang et se jeta sur son lit, les vêtements déchirés. De retour de la forêt, le roi la trouva dans cet état et lui demanda quel malheur lui était arrivé. « Votre fils a abusé de moi. » « Si c'est le cas, dit le roi, il mérite la mort. » Il ordonna à deux bourreaux d'emmener le prince dans la forêt pour lui couper les bras et les jambes. Mais les bourreaux pensèrent qu'il vaudrait mieux tuer l'un de leurs enfants que le prince. « Nous ne pouvons pas vous tuer, lui confièrent-ils. Nous nous tuerons l'un de nos fils à votre place. »« Ce ne serait pas juste, dit le prince. C'est moi que vous devez tuer. » Sur son lit de mort, ma mère m'a demandé de ne jamais commettre le moindre mal, même au risque de ma vie. Exécutez les ordres du souverain. Les bourreaux allongèrent le prince au pied d'un arbre solitaire, lui coupèrent les bras et les jambes et s'en retournèrent. Or, le grand yogi Achinta, qui justement passait par là, vit le prince mutilé, l'initia et lui donna des instructions. À une demi-lieue de l'arbre, quelques hommes paissaient leurs vaches. Le yogi les aborda. « Là-bas, dit-il, sous les vautours qui tournoient, se dresse un arbre solitaire, au pied duquel il y a un homme aux membres coupés. Qui d'entre vous aurait le courage d'aller le voir ?»« Moi, dit un jeune garçon de la caste des vendeurs d'encens. Je veux bien faire votre travail, yogi, si vous, vous faites le mien. » Il confia donc ses vaches au yogi, et entra dans la forêt en se guidant sur les vautours. Au pied d'un arbre solitaire, il vit l'homme et revint le dire au yogi Achinta. Comment te nourris-tu ? Lui demanda celui-ci. Le propriétaire des vaches me nourrit copieusement le soir. Je pourrai partager avec le mutilé. Parfait, dit Achinta. Prends donc soin de cet homme. Il s'appelle Shurangi. Le jeune garçon construisit une hutte de feuilles autour de l'arbre, donna à manger au prince et nettoya ses plaies avec ses mains. Cela dura 12 ans. Un jour, il découvrit que le prince s'était levé et se tenait debout sur deux jambes. Au comble de l'émerveillement, il interrogea l'homme qui lui répondit par cette sentence. « Habile en méthode, mon maître sublime m'a présenté la dimension absolue et le pur éveil. J'ai réalisé que les choses avaient la même essence. » Grande merveille que l'irréalité du bonheur et de la souffrance. Comme tu le vois, j'ai à nouveau des bras et des jambes. Veux-tu que je te donne des instructions ? Conclut-il en s'élevant dans les airs. Je ne veux pas d'instructions. Mon maître m'a demandé de vous servir et c'est ce que j'ai fait. Le jeune homme s'en retourna garder ses vaches jusqu'au jour où le yogi Achinta revint. Il lui raconta tout ce qui était arrivé. Et cela réjouit fort le yogi. Achinta donna initiation et instruction au gardien de vaches avant de partir pour une autre contrée. Le vacher médita et atteignit l'accomplissement suprême du grand saut. Réapparut alors le maître qui lui dit simplement « Ne deviens Bouddha qu'après avoir libéré 100 fois 100 000 êtres. » Dès lors, le Vaché initia tous ceux qu'il rencontrait, jusqu'à ce jour où le grand dieu Shiva le pria de ne plus initier n'importe qui. Initie seulement ceux qui t'en font la requête, car il ne convient pas d'initier ceux qui manquent de foi ou de sagesse. Le Vaché se rangea à cet avis. Comme il libérait les foules et continuait de garder les vaches, c'est sous le nom de Gorakṣa ou Vaché que sa renommée se répandit par tous les horizons. De nos jours encore, il initie ceux qui en ont le karma. Et ceux dont le karma est pur entendent, au jour propice, le crépitement de son Dhammaru. Donc, je voudrais vous dire quelques mots sur ce récit, qui est assez étrange quand même. On retrouve le thème du jeune paysan non éduqué qui va obtenir la réalisation parfaite. On ne sait rien de plus sur le prince lui-même, sauf qu'il va d'une situation extrêmement dramatique, privé de jambes et de bras, se retrouver un être vivant, je dirais quasiment normal. On retrouve aussi le prototype de la reine malveillante et jalouse, qui est assez fréquente dans les contes, et qui va accuser son beau-fils de viol. Alors ça, je trouve que c'est quand même plus rare. S'agissant du verdict du châtiment suprême infligé au jeune prince, je me suis demandé si ça avait quelque cohérence historique. Et apparemment, c'est ce que disent les textes sur la justice royale. Nous avons des réponses dans l'Inde classique de Michel Angot, Belle Lettre 2001, qui fait référence à un texte du premier empire indien, 313-226 avant Jésus-Christ. Le roi, je cite, « Le roi incarne le châtiment et fait de la violence réglée un devoir. Il n'a pas d'autre norme, car son devoir personnel, Svadharma, comprend sa grandeur de roi, la puissance de son royaume, l'extension de son territoire, la destruction des royaumes voisins, le maintien du dharma, donc la loi, dans l'espace qu'il régit. Il doit donc user de violence préventive contre ses proches, ses parents, qui pourraient devenir ses rivaux, car les fils du roi sont des crabes qui détruisent leurs géniteurs, selon Kautilya, donc c'est un extrait de l'Arthashastra 1. Si le roi doit user de sa violence, c'est parce que le mal, c'est le désordre né de la faiblesse et que le monde est toujours sous sa menace. Donc voilà ce traité qui serait dû à Chanakya, premier ministre, du roi Chandragupta, dans la grande période des Gupta, que les spécialistes comparent au traité de Platon et d'Aristote et pour le fond à Machiavel. Donc, une édition française a été publiée aux éditions du Félin en 1998. Donc, effectivement, le geste présumé du prince, dont l'accuse la reine, est interprété comme une tentative de prise de pouvoir. Voilà, je trouve que le texte part de lui-même, finalement, c'est assez fort. Et ce qu'on peut dire, si le conte à géographique a une fonction de téléologie, si on peut dire téléologique, où la réalisation trouve sa place dans la finalité de la matière à se transcender. C'est assez typique finalement du texte de ce genre. Voilà, merci de votre attention et nous vous disons à très bientôt.